Alain Boer, bonjour et merci de nous accorder cet entretien pour la réédition de votre dictionnaire amoureux de la franc-maçonnerie, publié aux éditions Plomb, qui est paru pour la première fois en 2010. Dans l'introduction de cet ouvrage, vous revenez sur votre parcours maçonnique. Je rappelle que vous avez été pendant 3 ans, de 2000 à 2003, le grand maître du Grand Orient de France. Vous êtes entré en maçonnerie très jeune, vous aviez 18 ans.
Oui, absolument, mais ça n'est pas inédit. La maçonnerie dispose, notamment la maçonnerie anglo-saxonne, d'un accès à l'initiation qui s'appelait les Lawtons ou les Louveteaux, où on pouvait entrer à partir de 15 ans, mais il est vrai que la tradition se situe plutôt à un âge plus avancé, entre 35 et 45 ans ou 50 ans, oui. Mm-hmm.
Et vous avez donc effectué un parcours qui vous a amené très jeune, vous avez été le plus jeune grand maître du Grand Orient de France, dans une période assez tourmentée de l'obédience.
Oh, l'obédience a toujours connu des moments de calme et de passion, de turbulence et d'engagement. Elle n'est pas marquée par son isolement et sa fermeture, mais plutôt par son ouverture et son engagement dans le débat social et citoyen. Donc ce n'était pas beaucoup plus agité que d'habitude, mais disons qu'un cycle se terminait où le Grand Orient avait été très engagé pour la laïcité, la défense des libertés, et avait même un peu titillé de la politique en participant beaucoup au programme de François Mitterrand, et qu'une certaine déception existait, notamment sur la question de l'école publique, sur la question du service public, sur la question du changement. Et donc, le Grand Orient était dans une phase d'introspection qui l'a amené évidemment à ressentir plus fort que d'autres et plus douloureusement que d'autres cette espèce de désenchantement de la politique et de l'action publique qui a touché beaucoup de ceux qui, pendant de nombreuses années, s'était battu pour qu'il y ait une forme de changement, de modernisation, de socialisation au sens du rapport au social d'un pouvoir qui avait été plutôt marqué soit par le conservatisme jusque dans les années 68-70, soit par un libéralisme un peu débridé ensuite, enfin un début de libéralisme débridé, voilà. Donc oui, le Grand Orient était un peu agité, mais paradoxalement, comme je l'indique souvent, si j'étais le plus jeune en âge, je n'étais pas le plus jeune en maçonnerie, puisque j'avais pu intervenir dans ma loge pendant une vingtaine d'années en réalité. Donc j'étais un vieux maçon jeune d'âge.
Et vous aviez déjà une attirance dès l'adolescence pour la maçonnerie, puisque vous avez été en quelque sorte repéré au moment d'une visite de ce qui était alors l'embryon du musée de la maçonnerie rue Cadet au siège du Grand Orient de France à Paris.
Alors, on ne peut pas dire ça exactement comme ça. D'abord, parce que ça m'est arrivé quand j'avais déjà 18 ans, donc je n'y suis pas allé quand j'en avais 12. Ensuite, parce que ce n'est pas une tradition familiale. Et enfin, parce que si j'ai été repéré, c'est parce que j'étais bien le seul visiteur d'un musée qui n'avait pas encore ce nom et dont on se demandait ce que, si je ne m'étais pas trompé d'adresse, vu mon âge.
Il a beaucoup progressé depuis, le musée.
Oui, le musée est devenu un grand espace justement d'ouverture. J'ai cassé, j'ai voulu qu'on casse les murs de la forteresse pour montrer ce que la maçonnerie était, plutôt que d'imaginer ce qu'elle pouvait bien être. Mais à l'époque, non, je n'ai pas été repéré. J'ai été l'objet d'une sorte de curiosité par un très brave homme, dentiste de son état et conseiller de l'ordre, c'est-à-dire membre du conseil d'administration du Grand Orient, qui est venu s'inquiéter de ce que je venais bien faire là, puisque mon âge interrogeait beaucoup les gardiens qui se disaient « Tiens, peut-être s'est-il trompé, peut-être… » Voilà. Donc ils se sont beaucoup inquiétés. Et ça a été plus une forme d'interrogation que de repérage, mais effectivement, par la nature humaine, la bonhomie, et le fait de répondre assez franchement aux questions que je me posais. Mon ami José, puisque c'était son prénom, a fait en sorte effectivement que la curiosité devienne un intérêt. Voilà.
Alors, les origines de la maçonnerie spéculative est à rechercher au-delà de la Manche, en Angleterre au début du XVIIIe siècle, certains considèrent même en Écosse dès le XVIIe siècle, mais elle n'arrive en France que dans les années 1725.
Oui, en fait, il y a une maçonnerie qui passe, c'est-à-dire l'idée que ce dispositif qui dépasse les conflits religieux et les conflits politiques dans une Angleterre qui est essentiellement marquée par les guerres de religion et les guerres de succession pendant 100 ans, interpelle les commerçants. Donc c'est une maçonnerie des ports et c'est une maçonnerie du commerce où les gens se parlent et s'interrogent sur cela. Et puis nous avons beaucoup de réfugiés écossais qui sont en France depuis la fin du XVIIe siècle et qui ont amené avec eux une maçonnerie plutôt nobiliaire, plutôt une maçonnerie d'architectes, d'artilleurs, une maçonnerie de gens hautement éduqués et qui vont en parler à leurs collègues nobles français au château de Saint-Germain-en-Laye. Mais effectivement, au fur et à mesure, l'intérêt devant ce dispositif qui ressemble beaucoup à ce qu'on aurait pu créer si on avait conservé l'édit de Nantes, c'est-à-dire la fin des guerres de religion en France, amène une partie des élites nationales qui sont à la fois des savants, des nobles éclairés, mais aussi une petite partie du clergé, à se poser la question de savoir si on ne pourrait pas travailler ensemble, nonobstant les différences sociales, et surtout la part castique, le côté très révérencieux et très fermé de la haute noblesse. Et c'est de là que vont se trouver importés en France, par les Écossais en partie, et par les Anglais pour beaucoup, mais aussi les Hollandais, qu'on appelait les Pays-Bas autrichiens, pour une partie, des éléments de loge qui vont commencer à s'ouvrir sur les zones frontalières et les zones portuaires, et puis évidemment à Paris. Et là, on va commencer à avoir des loges anglaises en France, de rite anglais en France, mais qui deviendront peu à peu des loges françaises en France, et donc on va voir apparaître une grande loge en France, qui n'est pas encore la grande loge de France, puis un Grand Orient, qui va être l'organe fédérateur et rassembleur à un moment donné de toute la maçonnerie, avant qu'elle, celle-ci, ne décide d'ouvrir des voies différentes, dont aucune n'est supérieure à une autre, Grand Orient, Grande Loge, mais aussi maçonnerie mixte avec le droit humain, maçonnerie féminine avec la Grande Loge féminine notamment, et puis d'autres obédiences de moindre taille, mais qui peuvent aussi avoir leur intérêt dans un espace qui va devenir commun, qui est l'espace maçonnique français, et qui est la marque de fabrique de la diversité de l'offre maçonnique en France par rapport à un certain monothéisme anglo-saxon qui lui-même a connu des évolutions ultérieures avec une maçonnerie pour les Afro-Américains, une maçonnerie plutôt ouverte aux originaires de pays latins, et puis une maçonnerie féminine qui a eu vocation à s'étendre peu à peu sur beaucoup d'autres pays.
Le premier grand maître d'une obédience maçonnique française est un Anglais, le duc de Wharton.
Oui, enfin, il s'autoproclame grand maître. Il était grand maître de la maçonnerie anglaise. Il en a été plus ou moins exclu pour des activités un peu... Il était très joueur et il ne buvait pas que de la badoie. Donc, peu à peu, il a été amené à ce qu'on lui demande d'aller s'amuser ailleurs. C'est pour ça qu'il s'est implanté en France, mais il est le premier à utiliser le titre de grand maître de la maçonnerie en France. Mais il n'est pas véritablement le grand maître d'une obédience ou d'une fédération de loges. Il est plutôt un grand maître en titre, se parlant plutôt à lui-même qu'aux autres. Mais effectivement, il inaugure le parcours de celles et ceux qui occuperont la fonction.
La franc-maçonnerie en France se diffuse très rapidement. À la veille de la Révolution, il y a un millier de loges.
Oui, il y a plus d'un millier de loges en France, effectivement, qui sont justement le ferment de cet espace de dialogue qui n'existe pas dans le reste de la société, avec beaucoup de bourgeois, de professions intellectuelles, de médecins, de petits nobles et de moyens nobles, parfois de très grands représentant de la noblesse et qui est le seul espace où chacun peut se parler de manière plus ou moins égalitaire, alors que le reste de la société reste encore assez coincé dans la capacité à ce que les ordres, puisqu'il y en a plusieurs à l'époque, la noblesse, le clergé et le tiers-état, arrivent à discuter. Et comme il n'y a pas régulièrement d'états généraux, c'est-à-dire cet espace qui va apparaître après 1789, il y a une difficulté à établir un dialogue à l'intérieur de la société, et c'est la franc-maçonnerie qui va servir d'espace de dialogue. Et donc, comme la demande est extrêmement forte, que la société se modernise, qu'elle crée les conditions aussi d'une révolution en matière éducative, sociale, qu'il y a beaucoup de discussions, de philosophes, que l'encyclopédie commence à poindre son nez, eh bien, peu à peu, on voit apparaître ces espaces de dialogue sans tabou, sans interdit, ou avec un minimum, à la condition assez intéressante, d'ailleurs, et elle venue d'Angleterre, que pour survivre, la maçonnerie ne doit pas faire de politique, et ne doit pas parler politique, et ne doit pas comploter contre le régime, et elle se tiendra à ce dispositif pour éviter, évidemment, les obligations britanniques, notamment, qui interdisaient la réunion de plus de 5 personnes, et qui considéraient que tout dialogue était un complot. La France va inverser le processus en faisant en sorte que le dialogue soit un dialogue.
Dans la maçonnerie de l'Ancien Régime, on retrouve un grand nombre de militaires, mais aussi des membres du clergé.
Oui, alors c'est du petit moyen clergé. Il y a quelques très hauts représentants du clergé, car il y a, je dirais, quelques loges d'élite, mais l'essentiel est une loge de la l'essentiel, ce sont des loges de la classe moyenne, des loges qui sont justement faites pour permettre à des gens du clergé, de la noblesse et du tiers état de se parler au niveau local. Et d'ailleurs, c'est cette proximité-là qui va créer par la suite une proximité plus politique au moment où la réunion du tiers état va faire cohabiter pendant des semaines toute cette population, puisqu'elle va être en situation de préparer les états généraux, parce que le voyage dure longtemps pour aller jusqu'à Versailles, parce qu'il faut cohabiter dans des voiture ou à pied, ou à cheval, qui vaut mieux transiter à plusieurs qu'à seul sur les routes du pays, que les hôtels sont rares et qu'on partage aussi les chambres et où qu'on se fait héberger chez les amis des amis. Donc peu à peu, on voit apparaître une sociabilité maçonnique qui va évidemment accélérer sa capacité à s'élargir. Et il y a une maçonnerie militaire, plutôt une maçonnerie qu'on appelait de ponton, une maçonnerie de marins, qui va devenir une maçonnerie militaire ultérieurement, et puis une maçonnerie de marchands, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on se fréquente puisqu'on va de port en port, ou de route marchande en route marchande. Et puis, évidemment, pour ceux qui sont le plus intéressés ou le plus ouverts à la cause de l'évolution de la société, il y a cette maçonnerie de la noblesse et du haut clergé, mais qui est plutôt une maçonnerie des très grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, et surtout, évidemment, autour de la monarchie et autour de Versailles.
Louis XVIII et Charles X n'étaient pas insensibles à la maçonnerie.
Oui, mais la plupart des chefs d'État, même Napoléon, qui en fut le grand refondateur et qui fut une sorte de grand maître sans être maçon, contrairement à une idée répandue...
Alors que son père l'était.
Oui, mais beaucoup de chefs d'État étrangers, beaucoup... d'intervenants politiques de haut niveau qui étaient attirés et fascinés par les Lumières se sont retrouvés soit protecteurs, soit eux-mêmes initiés. Et puis il y avait le modèle britannique où la monarchie britannique a fait de la maçonnerie sa colonne vertébrale, de la même manière que Napoléon a fait de l'archi-chancelier de l'Empire, Cambacérès, le pro-grand maître, le secrétaire général du Grand Orient, et a fait en sorte que la quasi-totalité des maréchaux, des généraux, des colonels, la moitié des officiers de l'Empire, la maçonnerie, l'enseignement supérieur était géré par une université impériale qui était architecturée autour d'une logique qui était elle-même maçonnique. Donc il a voulu copier le mécanisme anglais en France, et avec un État central qui ressemblait de plus en plus à la Grande-Bretagne, ou en tout cas à l'idée que Napoléon se faisait de la monarchie britannique, on a vu apparaître effectivement une maçonnerie extrêmement structurée, enracinée dans la société et qui pendant longtemps a servi de boîte à outils à l'évolution politique et sociale du pays.
Alain Bauer, nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Passé-Présent. On se retrouve tout de suite après pour poursuivre cette conversation à propos de la réédition de votre dictionnaire amoureux de la franc-maçonnerie aux éditions Plon. C'est Jacques Brel qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Jacques Brel, qui était franc-maçon.
Alors, il ne me l'a pas dit, mais c'est ce qu'on dit. Et vous savez que les affirmations concernant l'appartenance maçonnique sont toujours un sujet complexe, donc on va considérer que.
Nous écoutons Amsterdam, un titre de 1964.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse m'invite à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, Alain Bauer, pour la réédition de son dictionnaire amoureux de la franc-maçonnerie aux éditions Plon. Alain Bauer, vous avez été grand maître du Grand Orient de France de 2000 à 2003. Nous évoquions la reconstitution de la franc-maçonnerie après l'épisode révolutionnaire au moment du Premier Empire. S'il y a un régime en France qui est fondamentalement attaché à l'esprit maçonnique, c'est la Deuxième République entre 1848 et 1851.
Oui, la Deuxième République est faite par des maçons. Alors, je ne dirais pas qu'elle est faite par des maçons pour des maçons, mais elle reprend l'essentiel des revendications et des possibilités, des positions de la maçonnerie sur la démocratie, sur les libertés, sur l'interdiction du travail de femmes de nuit, des femmes et des enfants, sur évidemment l'abolition de l'esclavage, alors qui est plus lié à la passion de Victor Schœlcher, un maçon qui a une position structurée à l'intérieur du gouvernement révolutionnaire et républicain. Mais on sent bien qu'il y a là un moment particulier où à peu près toutes les réflexions qui ont été mises de côté depuis 1789, mais qui ont connu des avancées et des reculs dans les épisodes successifs de la maçonnerie, y compris dans des applications fortes au moment de la maçonnerie impériale et des retraits ensuite, la maçonnerie est effectivement une maçonnerie républicaine et la Deuxième République est vraiment le modèle d'achèvement de ce que pouvait être la maçonnerie à l'époque. En tout cas, c'est ce que la maçonnerie croit jusqu'au moment où, évidemment, elle se rend compte que la démocratie, c'est bien, mais que l'électeur peut être joueur et qu'il n'élit pas toujours le représentant le représentant de fait, pardon. Veuillez m'excuser, le pollen a aussi ses charmes. Le représentant de l'aile la plus républicaine, mais que c'est le Bonaparte qui prend le dessus contre Cavaignac, le général républicain mais un peu sanglant, et surtout Ledru-Rollin qui était l'archétype de ce qu'aurait pu être la représentation électorale de la maçonnerie. La maçonnerie est victime de ces principes puisque elle se rend compte que un processus électoral ne se suffit pas à lui-même pour garantir la démocratie ou la République. Il faut bien plus que cela et ils le découvriront après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.
Du 2 décembre 1851. La Troisième République voit également l'esprit maçonnique infusé dans sa politique.
Alors d'abord, il y a beaucoup de maçons élus au Parlement, un très grand nombre, mais avec des opinions extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'il y a des maçons qui vont du rouge vif au bleu très pâle, comme ce fut le cas d'ailleurs au moment de la création de la République et du débat sur l'amendement Wallon, c'est-à-dire le régime républicain, le drapeau bleu-blanc-rouge ou la monarchie et le drapeau blanc. Et donc il n'y a pas de parti républicain véritablement, mais il y a une volonté issue de tout le pays d'avoir des républicains majoritaires au Parlement, et donc cette poussée permet aux députés maçons de se retrouver et républicains, de se retrouver au siège du Grand Orient de France, qui les accueille, et qui fait en sorte qu'ils se parlent, et qu'ils se mettent d'accord. C'est un programme minimum, le programme minimum étant la République, le drapeau bleu-blanc-rouge, et la sortie de l'Empire. Et ceci va permettre, dans des débats compliqués, complexes, mais effectivement, de rediffuser à nouveau sous une forme un peu différente, car le temps est passé, la guerre est passée, mais un processus qui va permettre de raffermir la République, avec d'ailleurs l'apparition d'un nouveau courant très différent des traditionnels radicaux qui accueillaient la quasi-totalité des francs-maçons, avec un courant de gauche plus structuré, plus évolué, et qui va d'ailleurs s'exprimer ailleurs qu'au Grand Orient de France dans un premier temps, plutôt à la Grande Loge de France, et donc il va y avoir une diversité de l'offre maçonnique au Parlement qui va amener mécaniquement une plus grande facilité à la diffusion de l'esprit et des propositions, mais aussi beaucoup de divergences et de confrontations, notamment sur ce qui sera la grande œuvre de l'époque, la loi de séparation de l'Église et de l'État.
L'histoire de la franc-maçonnerie française est marquée par un événement majeur qui se déroule en 1877, la rupture avec Londres.
Alors, contrairement à une idée répandue, la rupture avec Londres n'a pas lieu en 1877, elle a lieu en 1776, au moment où les maçons français se mobilisent massivement pour financer les actions des insurgés britanniques. Et les maçons britanniques, des insurgés américains, et les maçons britanniques n'ont pas du tout aimé cette prise de position très forte des francs-maçons français. Il y a déjà eu d'ailleurs un conflit sur la possibilité des Français d'ouvrir des loges en Belgique, Pays-Bas autrichiens à l'époque, car Londres estimait qu'elle avait le monopole de la maçonnerie mondiale et pas seulement de la maçonnerie britannique. Donc les conflits étaient nombreux, et si la plupart des loges continuaient à avoir des relations amicales individuelle ou fraternelle, les obédiences ne se parlaient plus depuis déjà quasiment un siècle. Il n'y a donc pas de rupture particulière, mais elle devient spectaculaire, car le Grand Orient, après de très nombreuses discussions, décide d'adopter un principe fondateur, qui est celui de la liberté de conscience, ou en tout cas de la non-obligation de croire en un Dieu révélé et à l'immortalité de l'âme. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'y croire, c'est que ça n'est plus obligatoire. Et ce débat, qui est un débat très complexe, très long, il a fallu une dizaine de convents, c'est-à-dire de réunions d'Assemblée générale, pour parvenir à un vote sur cette question, pose un problème majeur aux Anglais qui pensent que il faut croire en un Dieu révélé, même si on ne sait pas très bien lequel. Débat qui a bouleversé la maçonnerie britannique dans ses débuts, entre la querelle qu'on appelait entre les anciens, qui étaient les plus anciens, et qui étaient les plus modernes, et les modernes qui étaient les plus anciens, dans la mesure où le fait de savoir à quoi on devait croire et quelles étaient les limites de l'exercice et de l'engagement social de la maçonnerie était extrêmement important. Ceci a amené évidemment à un contentieux qui n'a fait que croître jusqu'au moment où il a été décidé et voté que le moment était venu de ne plus être en obligation de croire. Et il existe encore aujourd'hui au Grand Orient, par exemple, des loges qui ont toujours la Bible ou les Écritures, ce qui ne pose le problème à personne, dès lors qu'on est libre d'accepter ou pas de participer à un processus qui impose les Écritures dans la pratique maçonnique.
Alain Boer, vous qui êtes un fin connaisseur de la franc-maçonnerie et un observateur avisé de la vie politique, que représente aujourd'hui, au XXIe siècle, le poids de la maçonnerie en France et quelle est son influence sur la société ?
Alors c'est un peu compliqué parce que on ne sait jamais très bien quel est l'élément qu'il faut prendre en considération. Disons que si on parle du nombre d'élus nationaux et européens francs-maçons, disons qu'on est passé, qu'on a réduit leur représentation, c'est-à-dire leur quantité, ça ne parle pas de leur qualité bien sûr, d'environ, on a divisé par 6. C'est-à-dire que si 50 à 60% du personnel politique français était franc-maçon de diverses obédiences, on va dire avant la Deuxième Guerre mondiale, on est aujourd'hui aux environs de 10%. Deuxièmement, ce qui a changé, c'est la nature du régime politique. Nous étions en régime parlementaire. Les parlementaires avaient la main sur l'ordre du jour des assemblées, sur leur capacité à faire avancer des dossiers et sur les modalités dans lesquelles ils pouvaient faire passer des textes ou des lois. La Ve République a beaucoup changé les choses. On en parle encore aujourd'hui. Alors pas seulement avec un problème de 49-3, mais aussi de la maîtrise de l'ordre du jour et des conditions de fonctionnement des assemblées. Et les francs-maçons étaient plutôt, dans cette affaire, beaucoup moins, disons, puissants, ou en tout cas en capacité de faire passer des textes, même si on leur doit quelques belles avancées, notamment la législation sur la contraception, le droit aux soins palliatifs et des choses qui sont plus, qui relèvent plus du social, du médical, de l'humanitaire que des grandes orientations historiques. Mais on a vu apparaître ou réapparaître au moment du RMI, au moment du débat sur la laïcité, toute une série de travaux historiques de la franc-maçonnerie issus de francs-maçons célèbres ou reconnus. Et qui ont été des instruments aussi d'avancée sociale tout à fait importante parce que le poids moral des porteurs du projet était plus important que le poids quantitatif des francs-maçons dans le Parlement. Et je pense que tous ces éléments-là ont peu à peu modifié le poids politique de la franc-maçonnerie qui est devenu un poids plus influenceur que opérateur d'un côté et un poids plus de résistance d'imposition. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, c'est celle qui dit non, on ne passera pas la laïcité par perte des profits. C'est celle qui dit oui, il faut permettre de vivre et mourir dans la dignité. C'est celle qui dit on ne peut pas laisser les gens mourir de faim dans la rue, donc il faut un revenu minimum. Après, la manière dont elle le fait passer, la manière dont elle arrive à le faire passer, la rapidité avec laquelle elle le fait passer, est évidemment très différente. D'abord parce qu'il y a beaucoup de francs-maçons dans beaucoup d'obédiences et qu'ils ne sont pas toujours d'accord sur tout. Ensuite, parce que leur capacité à convaincre est aujourd'hui beaucoup plus importante que leur obligation de se rassembler pour faire passer ça sans les autres. La maçonnerie politique, elle est passée d'un statut dominant mais divisé à un statut minoritaire mais plutôt rassemblé.
Alain Boer, vous avez été très proche de Michel Rocard et vous n'êtes pas sans savoir combien la maçonnerie a joué un rôle essentiel dans l'apaisement de la situation en Nouvelle-Calédonie en 1988.
Alors, ça relève un peu de l'authentique légende et de la réalité. L'authentique légende, parce que les maçons caldoches étaient très opposés au dialogue et qu'il n'y avait pas de maçons kanak. Ce qui a beaucoup plus rapproché, c'est un peu comme le pasteur Desmond, qui est l'homme de 1877 et qui a permis de passer de l'obligation de croire à au droit de croire, mais de ne pas l'imposer aux autres. C'est plutôt le protestantisme allié à la franc-maçonnerie, allié à la personnalité de Michel Rocard et de Christian Blanc, qui a permis véritablement de considérables avancées en la matière. Et d'ailleurs, vous avez dans votre espace un homme qui a vécu ça de manière extrêmement précise et qui pourrait probablement être beaucoup plus détaillé que moi, qui fut un de mes patrons quand j'étais un jeune conseiller de Michel Rocard.
Jean-Claude Petit-Demange.
Jean-Claude Petit-Demange, qui est un Strasbourgeois historique et qui a vécu ça de l'intérieur. Donc il ne faut pas surestimer le poids de la maçonnerie. Elle a pris sa part, mais elle n'a pris que sa part.
Alain Boer, merci mille fois pour ce passionnant entretien. Je rappelle le titre de votre livre qui est réédité par les éditions Plon, le dictionnaire amoureux de la franc-maçonnerie. C'est passionnant, il y a une galerie de portraits tout à fait fascinante. J'ai appris, parce que je ne le savais pas, que Marc Chagall, pour qui j'ai énormément d'admiration et d'affection, était franc-maçon.
Oui, alors on a pu citer ceux qui ont assumé, qui ont dit ou qui ont reconnu la vérité, évidemment. Pour les autres, je laisse à tout un chacun le soin, soit de les interroger s'ils sont vivants, soit de retrouver, parfois très longtemps après leur disparition, des éléments qui permettent de se dire « Ah ben en fait, peut-être que… » voilà.
Et vous joignez également à votre livre toute une série d'articles qui éclairent beaucoup sur l'aujourd'hui de la maçonnerie.
Alors ce sont des articles qui datent de l'époque, mais qui permettent d'éclairer ce qu'a été justement cette période de transition, parfois de turbulence, comme vous l'avez indiqué, et qui permettent de donner les textes en entier plutôt que des petits extraits qui veulent toujours dire ce que vous avez envie de leur faire dire. Moi je suis pour la capacité des lecteurs à se faire leur propre opinion, puis à les vérifier pour constater ce qu'est la réalité, parfois beaucoup plus intéressante que la mythologie.
Merci Alain Boer, nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission. C'est toujours Jacques Brel qui nous accompagne en chanson. Nous sommes en 1968 et il nous invite à voyager du côté de Vesoul.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Et je te je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance.
Les éditions Plon rééditent deux dictionnaires amoureux que je souhaite vous présenter en complément de la première partie de cette émission. Tout d'abord, le dictionnaire amoureux de Stendhal. Il est signé Dominique Fernandez de l'Académie française, qui est un passionné de l'art et de la littérature italienne. Il a écrit son dictionnaire amoureux en 2013 et il nous présente les multiples facettes de Stendhal en centrant largement son propos sur son rapport à la péninsule italienne, lui qui fut consul de France à Civita Vecchia et qu'il s'y ennuya sérieusement. Henri Bayle, c'est son nom pour l'état civil, témoigne de son amour pour l'Italie. Il manifeste une prédilection pour Bologne, pourtant souvent délaissée par les voyageurs de l'époque, tout en exprimant sa préférence pour Milan et son intérêt pour Naples. Son premier écrit romanesque a pour cadre l'Italie. Il s'agit des Souvenirs d'un jeune homme italien, publié en février 1826. Il nous laisse également une histoire de la peinture en Italie, dont la plus grande partie du manuscrit a malheureusement disparu en 1812 lors de la retraite de Russie. Il évoque son goût pour les villes italiennes dans deux ouvrages, Rome, Naples et Florence, et les promenades dans Rome. Stendhal apprécie en l'Italie le goût du bonheur et la gourmandise de la vie. Ce dictionnaire amoureux est aussi l'occasion de retrouver les principaux personnages des romans stendhaliens, Madame de Rênal, Lucien Leven, Julien Sorel ou encore Fabrice Del Dongo. Dominique Fernandez revient également sur les nombreuses relations sentimentales de l'auteur de La Chartreuse de Parme, qui est fasciné par les femmes. Il porte un regard intéressé sur la peinture, avec délectation pour les œuvres de Raphaël, Corrège et Guido Reni. Par contre, il délaisse quelque peu les tableaux du Tintoret qui, selon lui, ne soignent pas ses ouvrages et surtout Titien. Par contre, il nous invite à découvrir Volterrano, peintre du XVIIe siècle, qui provoque chez l'écrivain le fameux syndrome de Stendhal. Nous sommes à Florence, en la chapelle des Niccoli de l'église franciscaine Santa Croce, le 26 septembre 1811. Stendhal est fasciné par les peintures qu'il découvre. C'est un parfait émerveillement que l'auteur du Rouge et le Noir consigne dans son journal. Dictionnaire amoureux de Stendhal, c'est signé Dominique Fernandez et c'est une réédition aux éditions Plomb, dans la même collection. Le Dictionnaire amoureux de New York par Serge Julie. Les éditions Plomb proposent en effet une nouvelle édition de ce Dictionnaire amoureux, publié pour la première fois en 2019. Son auteur, Serge Julie, nous promène dans la Babel des temps modernes. L'ancien directeur de Libération est charmé par cette putain de ville, pour reprendre l'intitulé de sa préface. Il l'aperçoit comme le plus grand studio de cinéma à ciel ouvert au monde, l'atelier de la modernité et un studio d'enregistrement géant. Il apprécie se perdre dans l'immensité de cette agglomération cosmopolite. Dans les pages de son Dictionnaire amoureux, il nous livre une somme d'histoires singulières et extraordinaires qui invite à un autre regard sur Big Apple. Sur Serge Julie brosse de nombreux portraits de New-Yorkais célèbres. Au fil des pages, le lecteur découvre ainsi Woody Allen, James Baldwin, Truman Capote, Robert De Niro, enfant de Greenwich Village, George Gershwin, originaire de Brooklyn, Peggy Guggenheim, Chester Himes, écrivain maudit qui évoque les profondeurs de Harlem, Eleanor Roosevelt ou encore Philip Roth, sans oublier bien sûr Martin Scorsese. Serge Julie aime flâner dans New York. Il déambule de quartier en quartier. Ainsi, il nous emmène à Manhattan, le cœur de la ville, Harlem, le quartier libre de Greenwich Village, le Queens ou encore le Bronx. Il traverse Central Park et s'attarde à Times Square. Je vous recommande la lecture de ce Dictionnaire amoureux de New York, qui est une très belle invitation au voyage. Il est signé Serge Julie. Il est édité par Plomb. Nous terminons cette émission en musique, après avoir remercié Thomas qui l'a réalisée. C'est toujours Jacques Brel. Nous écoutons un titre de 1977, l'une de ses dernières chansons, « Les Marquises ».
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Thank you.